vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 13h ici à Paris, 11h en temps universel.
RFI Midi.
Stéphane Genest.
Bonjour à toutes et à tous. C'est RFI Midi qui débute, 2h30 d'informations où l'on va faire ensemble le tour du monde de l'actualité sur tous les continents. Et à la une, en ce mardi 22 octobre 2024, le sommet des BRICS qui se déroule en ce moment en Russie, à Kazan précisément. Le président russe Vladimir Poutine y accueille une vingtaine de dirigeants étrangers, alliés ou partenaires pour ce sommet annuel. On verra avec notre invité d'ici une heure que si ce rassemblement de pays avait initialement un objectif économique, eh bien la politique prend largement le dessus. Un sommet qui se déroule en Russie et inévitablement, la guerre en Ukraine va s'inviter dans ces discussions.
Le fait que le sommet soit accueilli en Russie, évidemment, ça déséquilibre quelque part la possibilité de convier aussi à un moment l'Ukraine. Évidemment que la question se posera.
Une analyse du spécialiste de la géopolitique Sébastien Boussois que l'on va entendre en longueur dans RFI Midi. Nous irons aussi au Japon, illustration des conséquences de la biodiversité pour le moins malmenée, sujet qui est au cœur des discussions de la COP16 sur la biodiversité. Justement, ça se déroule en ce moment en Colombie. Au Japon, donc, où des animaux sauvages arrivent à s'aventurer dans les grandes villes, et d'autres parfois n'ont même plus de place pour y vivre.
En ville, ils ont de moins en moins d'endroits où nicher. Les hirondelles, par exemple, construisent leur nid sous les avant-toits, sous les corniches ou dans des interstices entre les tuiles. Mais énormément de maisons individuelles ont cédé la place à des immeubles pleins d'appartements qui ne leur offrent pas une telle possibilité. Bref, un cercle vicieux sans fin et extrêmement nuisible à l'environnement.
Et puis en France, une semaine après la mort d'un cycliste écrasé par une voiture en plein Paris, le gouvernement lance une mission contre la violence sur les routes. On en parle dans 10 minutes avec notre invité. Mais d'abord, c'est le journal.
RFI à Paris, 89 FM.
Avec vous, Karine Bellicha. Bonjour, Karine.
Bonjour.
Et au Proche-Orient, le cycle des attaques et des contre-attaques se poursuit sans trêve.
Oui, tir de Hezbollah sur Israël, bombardement israélien dans le sud du Liban et à Beyrouth, dans la banlieue sud de la capitale, fief du mouvement chiite, des frappes près de l'hôpital Hariri, le plus grand établissement public du pays, ont fait au moins 13 morts et 60 blessés. Et Théo Renaudon, l'offensive israélienne se poursuit.
Oui, l'aviation israélienne a lancé plusieurs raids dans des villages au sud et à l'est du Liban. Cette dernière heure, c'est près de tirs que les bombes pleuvent. 9 attaques en une heure selon l'Orient le Jour. Israël avait appelé à évacuer. Bombardement intense également à Beyrouth. Cette nuit, Tel Aviv promet avoir ciblé dépôts d'armes et centres de commandement du Hezbollah. Tout ça était sous terre selon Israël. Ciblé toujours par l'État hébreu, la base navale du Hezbollah, où étaient entreposés des bateaux militaires légers qui étaient destinés à affronter la marine israélienne selon Tel Aviv. À part à l'hôpital, le bilan de ces frappes à Beyrouth n'est pour le moment pas connu. Des sources parlent d'une dizaine de morts civiles. Le Hezbollah, lui, a repoussé plusieurs offensives à la frontière sud. Un soldat israélien est grièvement blessé. Milice chiite qui revendique également 3 frappes de missiles sur plusieurs cibles militaires israéliennes, dont une en banlieue de Tel Aviv. Le dôme de fer semble avoir joué son rôle. Aucun blessé ni dégâts.
Théo Renaudon du service international de RFI. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine arrive au Proche-Orient. C'est le 11e voyage d'Anthony Blinken dans la région depuis un an. Première étape Israël donc. Après la mort du chef du Hamas, il espère arracher un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens. Après Israël, Anthony Blinken se rendra demain en Jordanie, avant plusieurs autres capitales arabes, pour discuter notamment de l'aide humanitaire à Gaza, toujours insuffisante pour 2 millions d'habitants de l'enclave palestinienne. L'objectif est clair, faire contrepoids au G7. Vladimir Poutine réunit une vingtaine de dirigeants étrangers à partir d'aujourd'hui pour le sommet des BRICS à Kazan. C'est sur les rives de la Volga, dans le centre du pays. Le président russe y a convié les pays émergents pour consolider une alternative aux alliances occidentales. Il s'agit de montrer par la même occasion que la Russie n'est plus isolée ou pas isolée sur la scène internationale depuis l'invasion de l'Ukraine. Et c'est Xi Jinping, le président chinois, qui reçoit les honneurs de la première rencontre bilatérale à l'ouverture du sommet. Hasard du calendrier, l'autobiographie d'Alexei Navalny sort en librairie aujourd'hui. un peu partout dans le monde. C'était le plus grand opposant de Vladimir Poutine. Il est mort en détention en février dans une colonie pénitentiaire au-delà du cercle arctique. Ses mémoires posthumes s'intitulent « Patriote ». Sa femme, Yulia, a relu et fini son récit après sa mort. Alexei Navalny s'y disait persuadé que sa détention se finirait soit par la chute de Vladimir Poutine, soit par son décès.
L'actualité en France, à présent, c'est le budget pour l'année 2025. Il est désormais dans le chaudron de l'hémicycle de l'Assemblée nationale depuis hier soir.
Les députés ont entamé l'examen de la partie recettes du projet de loi. Un budget qui prévoit 60 milliards d'économies. Après le rejet du texte très largement remanié en commission, première passe d'armes dans l'hémicycle, c'est le retour à la case départ. Même projet initial, même difficulté pour le gouvernement. Raphaël Delvolvé menacé de censure. L'exécutif est aussi confronté à des oppositions dans son camp.
Le ministre des Comptes publics se répète depuis des jours, le macroniste Laurent Saint-Martin.
Nous nous sommes imposé une règle pour bâtir ce budget. Pour 1 euro de recettes supplémentaires, 2 euros d'économie.
Sans surprise, la gauche ne fait pas le même calcul. Pour le nouveau Front populaire, c'est plutôt 3 euros d'impôts pour 0 baisse de dépenses. L'insoumis Éric Coquerel, président de la commission des finances.
Michel Barnier voulait 60 milliards. Nous lui avons trouvé. Et oui, nous préférons prendre dans les poches pleines de quelques-uns que d'aller les prendre dans la selle de la grande majorité des Français.
Peu de chances d'accord avec la gauche, accusée par le Premier ministre d'avoir organisé, je cite, un concours l'épine fiscale en commission. Compromis obligatoire en revanche avec la droite, membre de la coalition et opposé aux 3 milliards d'euros envisagés avec le gel pour 6 mois des pensions de retraite. Véronique Louwagie, la madame budget du parti Les Républicains.
Nous devons protéger nos retraités et notamment les plus faibles pensionnés. La retraite n'est pas une aide sociale. La retraite, c'est le fruit d'une vie de travail.
L'équation n'est toutefois pas aussi simple. Les centristes du Modem dans le camp présidentiel, eux, veulent pérenniser les taxes sur les hauts revenus prévues pour ne durer que 3 ans. Sans oublier le Rassemblement national et ses lignes rouges, forcément à considérer pour éviter la censure après un probable 49-3.
Et Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, doit intervenir tout à l'heure à la tribune. Au Cameroun, Paul Biya regagné de l'aéroport le palais présidentiel de Yaoundé sous les caméras de la télévision d'État hier. Une émission spéciale a été consacrée à cette apparition. Le président camerounais, âgé de 91 ans, était resté absent de la scène publique pendant plusieurs semaines, laissant les rumeurs sur sa santé enflées.
RFI 13h08 à Maputo, direction le Mozambique, puisque les résultats officiels des élections sont attendus dans la semaine.
Et aujourd'hui, les observateurs de l'Union européenne affirment avoir relevé des irrégularités lors du double scrutin présidentiel et législatif du 9 octobre. La mission évoque notamment des incidents lors du vote et pendant le dépouillement. Les explications de notre correspondante régionale à Nairobi, Gaëlle Alex.
La mission d'observation européenne a constaté des irrégularités lors du dépouillement et des modifications injustifiées des résultats au niveau des bureaux de vote, écrit le communiqué. Près de 180 observateurs européens ont été déployés dans tout le Mozambique le jour des élections générales. Mais lors des opérations de dépouillement, certains ont été refoulés des bureaux, y compris au niveau national. Ces déclarations donnent du grain à moudre au candidat Venancio Mondlane. Dans une vidéo posté sur sa page Facebook ce matin, il appelle à 2 nouvelles journées de mobilisation les 24 et 25 octobre pour paralyser le pays. La manifestation d'hier a tourné court. Les forces de l'ordre ont très vite dispersé les rassemblements avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Venancio Mondlane lui-même en a fait les frais devant son siège de campagne. Hier, dans une autre vidéo, il a accusé les forces spéciales mozambicaines d'avoir tué son avocat, assassiné vendredi avec un autre proche du candidat. Dans la soirée, les États-Unis ont condamné ces meurtres. Nous joignons aux partis politiques du Mozambique pour demander une enquête, écrit leur communiqué. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Dans 2 semaines, jour pour jour, les Américains trancheront Kamala Harris ou Donald Trump. La présidentielle se rapproche. Les candidats continuent d'enchaîner déplacements et déclarations. Les sondages sont très serrés. La candidate démocrate sera aujourd'hui sur NBC pour une nouvelle interview. L'ancien président Barack Obama enchaînera pour elle les meetings dans le Wisconsin et le Michigan, 2 des 7 États qui peuvent faire basculer cette élection. Donald Trump lui participera à une table ronde avec des électeurs latinos depuis l'une de ses propriété en Floride. Le candidat républicain ne veut pas se mettre à dos cet électorat, soit près de 20% des Américains, alors qu'il multiplie les sorties contre les migrants.
On se pose cette question dans le journal avec Karine Bellicha. L'IA, l'intelligence artificielle, peut-elle utiliser le travail de la presse, et cela gratuitement?
C'est l'enjeu de la plainte déposée hier aux États-Unis par le Wall Street Journal et le New York Post. Les deux journaux ont porté plainte contre Perplexity, une start-up d'intelligence artificielle. Elle est accusée de piller leur propriété intellectuelle. Gallibonin, l'entreprise est dans le viseur de plusieurs autres journaux américains comme Forbes ou encore le New York Times. Une question de protection de la propriété intellectuelle, mais aussi de préservation des revenus publicitaires.
Oui, Perplexity est l'une des plus importantes start-up d'intelligence artificielle sur le marché. Croisement entre ChatGPT, un moteur de recherche traditionnel. Son interface répond aux questions de manière structurée, mais a l'avantage de proposer un lien vers les sources de chaque information qu'elle fournit. Le problème, ce mode opératoire n'encourage pas les utilisateurs à suivre ce lien, ce qui prive les médias de tout revenu publicitaire sur leur site internet. Accusé de plagiat massif par plusieurs entreprises de presse, Perplexity persiste à utiliser leur contenu. Elle assure qu'aux yeux de la loi, personne ne détient de droit de propriété intellectuelle sur des faits. Une version contestée par les médias qui affirment que son modèle d'affaires repose sur l'exploitation illégale du travail des journalistes. À peine 2 ans après sa création, la start-up californienne connaît une croissance fulgurante. Cet été, elle a triplé sa valorisation, estimée maintenant à 3 milliards de dollars. En pleine levée de fonds, l'entreprise espère désormais atteindre plus de 8 milliards.
Gallibonin du service France de RFI, merci.
Et c'était le journal de Karine Bellicha. Merci beaucoup Karine, on vous retrouve tout à l'heure à 15h heure de Paris pour un prochain point d'information. Pour l'heure, il est 13h12 ici dans la capitale française.
RFI Midi.
Stéphane Genest.
C'est un défi auquel font face beaucoup de métropoles mondiales, le défi des mobilités en ville. On en parle beaucoup en France en ce moment, une semaine après la mort d'un cycliste écrasé en plein Paris alors qu'il circulait sur une voie cyclable par un homme au volant de son SUV. Un drame qui a ému à tel point que le ministre délégué au transport, François Durovray, lance une mission contre la violence sur les routes avec un objectif à réconcilier les voitures et les vélos alors que la cohabitation entre automobilistes et cyclistes est parfois difficile dans certaines grandes villes. On en parle avec Jean Coldéfi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du programme Mobilité et Transition d'Attac ITS France et conseiller du président de Transdev. On va déjà faire un bref état des lieux avec vous. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés et les dangers en ville, que ce soit et pour les voitures et pour les vélos ou pour les piétons?
Bah écoutez, faut quand même le rappeler, globalement la cohabitation se passe quand même pas si mal que ça. Après, il y a des problèmes de comportement qui peuvent être à l'origine de conflits, comme le drame que l'on a connu cette semaine. Mais je pense qu'il faut quand même le rappeler, que ce soit pour notamment les cyclistes, faut pas que ce soit un frein à l'usage du vélo. Ça se passe quand même globalement très très bien. On a une très forte augmentation de l'usage du vélo. Il n'y a pas non plus une explosion des accidents en vélo.
Oui.
Alors les conflits, ils sont en fait souvent avec des gens qui veulent aller vite, que ce soit des piétons, des vélos ou des voitures. Et donc, notre préférence pour le temps et la vitesse ne doit pas nous faire oublier la règle qui est le respect des autres, tout simplement.
Oui.
Et ça, c'est vrai dans l'espace public en ville, mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours.
Vous évoquiez les comportements. Même... il faut plus d'éducation routière. Il faut que les gens s'habituent à la diversité des mobilités.
Assurément. C'est-à-dire que plus vous allez avoir, et j'ai été longtemps un grand cycliste en ville, plus vous allez avoir de cyclistes en ville, plus les autres usagers vont faire attention, notamment les voitures, vont faire attention parce qu'ils auront l'habitude tout simplement d'en voir. Donc ça, c'est un point qu'il faut relever. Et puis le deuxième point, effectivement, les comportements. C'est-à-dire qu'on a aussi des cyclistes ou des trottinettes qui font pas assez attention à ceux qui vont moins lentement, et je pense aux piétons. Et donc tout ça, il y a quand même beaucoup à faire sur la question de l'éducation. Alors ça se passe dans les écoles, dans la jeunesse, mais je passe aussi dans la vie de tous les jours. On perd peut-être quelque chose qui s'appelle l'urbanisme. l'humanité, c'est-à-dire l'attention aux autres, en fait.
C'est le cas de le dire. Qu'en est-il par rapport aux aménagements des villes? On entend beaucoup que les villes ne sont pas assez aménagées pour ces mobilités qu'on appellerait douces, comme le vélo ou les trottinettes que vous évoquiez.
Alors, d'abord, je distinguerai les deux. Les trottinettes est un engin qui est quand même dangereux structurellement, parce que quand vous avez un accident en trottinette, vous faites beaucoup plus mal qu'en vélo.
Oui, parce qu'on est debout.
Parce qu'on est debout, les roues sont petites, etc. Donc, il y a une explosion des accidents graves avec les trottinettes. C'est un outil qui est dangereux, et donc il faut mettre un casque, etc. Mais ça, très peu le font. Et puis, les aménagements cyclables ont quand même beaucoup progressé. Donc, on a un nombre de morts, je crois, en vélo en France qui est de l'ordre de 240 par an. Donc, vous voyez que sur 15 à 20 millions d'usagers, c'est quand même pas énorme. Et puis tout ne se passe pas en ville, puisque effectivement il y a aussi beaucoup de pratiques du vélo, notamment le week-end, sur des routes à grande circulation. Voilà, à la campagne. Donc c'est les différentiels de vitesse qui font que les accidents à la campagne peuvent être beaucoup plus dangereux qu'en ville, puisqu'on roule beaucoup plus doucement en ville. Et je rappelle, on a quand même une multiplication des aménagements cyclables qui font que ça se passe quand même pas si mal que ça.
Dans d'autres villes européennes, je pense à Paris, où des aménagements sont d'ailleurs en cours, hein, et d'autres villes européennes, voire françaises, comme Strasbourg, dans l'est du pays, semblent avoir mené une transition en acceptant vélo, voiture, adaptation des mobilités. C'est donc possible.
Oui, c'est possible. Après, je pense qu'il faut quand même rappeler que chaque ville a sa configuration. Vous regardez Strasbourg, c'est une ville qui est assez dense, en fait, avec un rayon de 5 km. Donc, beaucoup de choses peuvent se faire à vélo et surtout avec des rues très larges. Et donc, on a beaucoup plus de facilité pour déployer des pistes cyclables. Et c'est ce qu'a fait Strasbourg. D'ailleurs, ce que fait maintenant Strasbourg, c'est sortir du centre-ville pour déployer des pistes vers la première couronne, voire le périurbain. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment très, très souhaitables. Mais j'insiste là-dessus, si on veut que le vélo ait un vrai usage sur un impact sur l'usage de la voiture, c'est surtout sur les parcs relais avec les transports en commun. C'est-à-dire que le vélo, c'est très bien, c'est très bon pour la santé, ça prend pas beaucoup d'espace en ville, ça coûte très peu cher à l'usager, à la collectivité, mais ça a quand même une portée limitée, et l'essentiel des kilomètres réalisés en voiture sont le fait de trajets longs. Donc ce qu'il faut absolument favoriser demain, c'est des parkings relais dans les pôles de transport public pour pouvoir prendre le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire le vélo sur des trajets, on va dire, de distance assez courte, inférieure à 5 km, ce qui est déjà pas mal, hein, ça veut dire faire 10 km par jour, tout le monde fait pas ça.
Oui.
Et ensuite les transports en commun pour des trajets plus longs. Et donc là-dessus, on a vraiment des très gros progrès à faire. Je rappelle un chiffre tout bête, à Bâle, qui est une ville de 200 000 habitants, le parking vélo de la gare de Bâle fait 3500 places. Il n'y a aucune ville en France qui a atteint ça,
si
y compris à Paris.
Si on vous comprend bien, tous ces éléments sont complémentaires et il ne faut pas les opposer. Toutes ces mobilités vont donc ensemble. Merci beaucoup, Jean-Claude Défi, directeur du programme Mobilité et Transition d'ATEC ITS France et conseiller du président de Transdev. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'RFI Midi. Il est 13h18 ici à Paris.
RFI Midi. La France à midi.
Stéphane Genest.
Et on poursuit RFI Midi avec des témoignages exceptionnels de l'histoire de l'esclavage. On y découvre les aïeux de la famille Lily, un reportage de Sylvie Coffi qui est avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour Stéphane.
On va en parler avec vous, mais d'abord on va écouter votre reportage. On y découvre donc cette famille, la famille Lily, femme et homme, qui ont été embarqués comme esclaves au Mozambique sur un navire brésilien. Ils ont été interceptés par un navire anglais, les Lily, qui les a menés à l'île Maurice où l'esclavage était alors aboli. Leurs bustes ont été moulés en 1846 et ils ont tous été regroupés dans le cadre d'une exposition à Blois, visage d'ancêtres. Et pour la première fois, les membres de cette famille Lily vont découvrir les visages de leurs aïeux. Reportage donc de vous, Sylvie Coffi, au Château Royal de Blois, où se tient cette exposition.
Ah, c'est trop émouvant de tous vos voir. Oh là là, ça y est.
Ben oui, ça pleure.
C'est très émouvant, voilà, oui, oui, oui. Et je comprends que pour elle, c'est très chargé aussi en émotion.
Lorsqu'elle voit les Lily, l'historienne Clara Boyer-Rossol ne peut retenir ses larmes. Enfants, petits-enfants, oncles, neveux, nièces, frères et sœurs, ils sont tous là, ou presque, quatre générations, tous bien habillés, comme s'ils venaient pour une fête ou un mariage, sont venus de toute la France et même de l'île Maurice rencontrer les bustes moulés de leurs ancêtres.
Je voudrais appeler tous les descendants, Lily. Vous allez accéder
à une salle qui n'est pas normalement accessible au public, que nous avons préparée pour vous, où nous avons rassemblé tous les bustes des Lilies que j'ai pu identifier dans la collection.
On voit bien Cécile, vous voyez.
Ce ne sont pas que des moulages en plâtre. Clara Boyer-Rossol, je suis historienne, commissaire de l'exposition Visages d'ancêtres. Ce ne sont pas déjà des sculptures, hein. Ce sont des empreintes des ancêtres. Les ancêtres ont respiré dans ces plâtres. Des restes organiques ont été captés dans le plâtre. Ces moulages peuvent avoir même valeur de relique.
Des cheveux, des cils, des poils de barbe ont été retrouvés incrustés dans des masques. 53 bustes moulés dans du plâtre par l'ethnologue Jeanne de Frauberville, dont une partie est présentée au public. Une collection qui rassemble les travaux qu'il a menés sur les races en 1846 auprès d'anciens captifs africains venus du Mozambique, qu'il a donc interrogé, mesuré, dessiné.
Je ressens une très 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 grande émotion.
David Lilly, l'un des descendants, est venu spécialement de l'île Maurice pour rencontrer ses ancêtres.
Je m'identifie beaucoup à ces visages-là. Je me retrouve dedans.
On n'a aucune certitude sur qui est notre ancêtre direct.
Doris Lilly, descendante de la famille Lilly.
Je trouve dans la bouche un petit peu, c'est Coco, un peu la bouche, la moustache un peu de mon frère aîné. Dans le front, les pommettes un peu hautes comme ça, chez mon autre frère, mon petit frère.
Donc là, il y a le grand frère, donc c'est Diek, et il n'y a pas d'Ekio. Pas d'Ekio, c'est Coco. J'ai raconté un petit peu son parcours en Mozambique jusqu'à son arrivée à l'île Maurice.
Et c'est comme ça qu'il nous fait une bizarrerie ici même, dans Maurice. Quand nous bannes descendants, continuez pour nos navires, Lily.
Dès l'année prochaine, ces visages d'ancêtres sont attendus au musée de l'esclavage à l'île Maurice.
Sylvie Coffi, on vient d'entendre votre reportage que vous avez tourné au château de Blois, c'est au sud-ouest de Paris. On a plein de questions à vous poser, Sylvie. Alors déjà, est-ce que l'on sait pourquoi l'ethnologue Eugène de Frauberville a réalisé ces moulages?
Alors à cette époque, il menait des recherches sur les races en s'appuyant sur les populations mises en esclavage à l'île Maurice. On les appelait Mozambique, un terme générique, pour désigner ces populations qui venaient de l'Afrique de l'Est, Mozambique, Tanzanie, Malawi. Il a voulu retracer leur parcours. Il les a interrogés sur leur pays d'origine, leur langue, leurs coutumes. Il a reconstitué 62 visages sous forme de bustes, comme l'explique l'historienne et commissaire de l'exposition, Clara Boyer-Rossol.
Jeanne de Frauberville écrit « Certains suffoquaient littéralement ». Il écrit, bon alors là de manière vraiment avec tous les préjugés raciaux de son temps, que d'ailleurs le fait que... ils ne rechignent pas trop lorsqu'ils se font arracher littéralement des touffes entières de cheveux, des cils, qu'ils ne montrent pas de douleur apparente, cela montre la résistance des Africains. Et surtout, il note qu'il a dû les persuader, parce que nombre d'entre eux ne voulaient pas se laisser mouler.
Et dans cette collection de bustes, Sylvie Coffi, il y a une chose pour le moins surprenante, il n'y a qu'un seul buste de femme. Est-ce qu'on a une explication?
Oui, il y a même plusieurs explications. Cette jeune femme s'appelle Mulotia. C'est la seule qui a été interrogée par Eugène de Frauberville. Il a collecté son nom d'origine. Elle avait environ 19 ans lorsqu'elle fut vendue par sa propre famille à des marchands d'esclaves. Le 17 mai 1840, elle fut embarquée à bord du navire brésilien, le José, qui se rendait à Rio de Janeiro. Interceptée en mer par un bateau britannique, le Lily, Mulotia fut amenée à l'île Maurice où elle va travailler comme domestique à Port-Louis. Et si c'est la seule dont le visage a été moulé, c'est qu'à l'époque, cela ne se faisait pas trop de s'isoler et de passer du temps avec une esclave. Cela ne correspondait pas aux mœurs de l'époque. Eugène de Frauberville était issu d'une famille d'aristocrates. Une autre raison, c'est que dans les plantations de canne à sucre, le travail étant dur, la main-d'œuvre était principalement masculine.
Sylvie, vous avez rencontré ces descendants du Lily, hein, notamment Doris et David, toutes ces familles. Comment ont-elles réagi?
Alors elles étaient émues, hein. Elles se sont recueillies devant ces bustes, heureuses de savoir d'où elles viennent, de retrouver une partie de leurs ancêtres, mais sans savoir précisément parmi tous ces bustes, qui est l'ancêtre de qui. Car en effet, tous les captifs sur ce bateau s'appellent Lily, et la seule manière de leur attribuer un lien de parenté serait de faire des tests ADN à partir des cheveux, par exemple, que l'on a retrouvés sur les moulures en plâtre, mais ces analyses ne sont pas fiables à 100%, et pour l'instant, ils ne sont pas prêts à faire le pas, et ça coûte très cher. chère. Doris Lilly, infirmière en région parisienne, quant à elle, est soulagée car elle vient d'apprendre que ses ancêtres n'étaient pas des esclaves. En 1840, l'esclavage vient d'être aboli, il y a 5 ans, à l'île Maurice. Pour autant, ces travailleurs engagés, comme on les appelle, ne seront pas libres de leur mouvement. Ils adresseront une pétition aux autorités britanniques pour pouvoir quitter l'île, ce qui leur sera refusé.
Et cette exposition, Sylvie Coffi, on trouve également des musiques d'époque.
Oui, ces chants polyphoniques que l'on entend, on les découvre dans le cadre de cette exposition. Ils ont été reconstitués à partir des travaux menés au milieu du 19e siècle par Eugène de Frobervilles. Et d'une certaine façon, cela permet aussi d'humaniser ces esclaves et de leur donner une voix.
Merci, absolument passionnant, de Sylvie Coffi en direct dans RFI Midi. Et cette exposition Visage d'ancêtres, elle est visible au château royal de Blois, c'est au sud-ouest de Paris, donc cela jusqu'au 1er décembre. Et je précise qu'un article est disponible sur notre site RFI.fr pour prendre connaissance et voir ces bustes. Merci beaucoup Sylvie Coffi, 13h25 à Paris.
RFI Midi.
RFI à Ziguinchor. 87.6 FM.
Votre invité culture dans RFI Midi, c'est le chanteur Grand Corps Malade. C'est l'un des chanteurs français les plus connus notamment, mais il est aussi réalisateur. Son dernier film, Monsieur Aznavour, sort demain, mercredi, en salle. Grand Corps Malade en signe la réalisation. Il est l'invité de Sophie Torlotin dans RFI Midi.
Grand Corps Malade, bonjour.
Bonjour.
Vous réalisez avec Mehdi Idir, Monsieur Aznavour, biopic de Charles Aznavour. Que représente-t-il pour vous? Je crois que vous l'avez bien connu.
Oui, il représente déjà, comme pour beaucoup, la légende de la chanson française, de la culture française même à travers le monde. Et puis après, c'est vrai que sur le plan personnel, il y a un peu d'affect supplémentaire, parce que j'ai eu la chance de bien le connaître, de le côtoyer, même dans des moments privés. Et puis surtout de travailler avec lui. On a eu un duo ensemble qui m'avait demandé d'écrire.
C'est un projet que vous portez depuis longtemps, de porter sa vie à l'écran?
Oui, c'est lui qui avait émis l'idée de faire un biopic sur sa vie. Il avait confié ça à son gendre, Jean Rachid. Et on a même failli démarrer avec lui. On parlait un peu de ce film. Et là, il est décédé en 2018. On a laissé passer du temps, quelques années, et puis on s'est remis à ce projet.
Une grande partie de votre film, Monsieur Aznavour, Grand Corps Malade, s'intéresse à ses débuts, qui ont été vraiment très difficiles, compliqués. Il a vraiment percé sur le tard.
Oui, alors en plus, ça, c'était une de ses volontés. Il voulait vraiment parler, les grosses tournées internationales, le succès, tout ça, ça l'intéressait pas. Il voulait vraiment parler de sa jeunesse, des années galères. Et Dieu sait qu'il y en a eu, des années galères. Évidemment, donc, fils de réfugiés arméniens, très pauvre. Puis après, il se lance dans une carrière alors qu'il n'a pas beaucoup d'atouts.
Et on lui dit qu'il n'est pas beau. Il n'a pas le physique de l'emploi, il n'a pas la voix.
On lui dit qu'il est petit, qu'il n'est pas très beau, qu'il a une voix voilée, il n'a rien pour réussir. Et à force de volonté, de travail, mais évidemment, quand même, d'un talent intrinsèque, il finit par s'imposer, par abattre tout. Toutes les portes qu'on lui met sur son parcours. Supérieure.
Les photos, les chansons.
Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça?
Grand Corps Malade, il y a aussi toute une partie, en tout cas sur la fin du film, où vous insistez sur le fait que lui, le fils de réfugiés arméniens qui ont fui le génocide, il a essuyé des critiques racistes à ses débuts sur scène, et il est devenu le représentant de la France à l'étranger.
Ouais, c'est pas rien. Moi, je trouve que la symbolique, elle est magnifique.
Ça résonne.
Ça résonne, évidemment, et ça nous parle aujourd'hui. On a quand même beaucoup tendance à se refermer. Tous les pays se referment sur eux-mêmes, veulent fermer les frontières, ont peur des réfugiés. On a quelques exemples d'enfants de réfugiés avec des parents qui parlaient pas notre langue et qui sont devenus des symboles de la culture française. C'est vrai que le symbole est joli.
Grand Corps Malade, vous venez du slam. Et Charles Aznavour, on sait qu'il a influencé des grands rappeurs, y compris des rappeurs américains, comme on peut l'entendre dans votre film, Monsieur
Aznavour.
Bien sûr.
Pour l'exemple du film, c'est Dr. Dre, rappeur américain immensément célèbre, à succès, a repris un sample d'une des chansons d'Aznavour qui s'appelle « Parce que tu crois ».
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu es ma blesse.
Back when Q was rolling with Lorenzo in a... Oui, il y a des samples de musique d'Aznavour dans multiples chansons de rap. Comment l'expliquer? À la fois, c'est une institution et à la fois, il est resté très moderne. Il venait de la rue, il venait d'en bas. Il a eu un gros succès, il a eu de l'argent et il n'avait pas peur d'en parler. C'est peut-être tout ça réuni qui fait qu'il continue à influencer, à parler aux nouvelles générations et notamment aux rappeurs, aux slammeurs.
Et vous, au Grand Corps Malade, vous chantez avec lui en quelque sorte sur le titre « À chacun sa bohème ».
C'est pas une reprise du tout, c'est un texte que j'ai écrit moi. moi, où je parle moi de ma bohème, mes premières années d'artiste, mes petites galères à moi à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on entend Charles Aznavour, c'est une espèce de duo virtuel dans le refrain. C'est un mélange entre la bohème de Charles et ma bohème à moi.
Je vous parle d'un temps.
Merci beaucoup, Grand Corbin.
Merci.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème entre galère et poème, à chacun sa bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Saint-Denis en ce temps-là était mon seul décor et mon terrain de fête. Une terrasse de café, deux trois poteaux qui passent et le plan s'éternise. Et le clocher de la mairie qui à 18h chante le temps des cerises. Je vous parle d'un temps que j'ai connu un temps comme une belle escale. On avait 1000 projets qu'on fantasmait devant une omelette frite à 4 balles. On avait des idées et on refaisait le monde au pied des bâtiments. Le monde